Vous écoutez, on lit pour vous.
Visionnaire dans l'âme. Un dossier de Catherine Harvey-Pinard, paru le 6 novembre 2025 dans La Presse. Le premier tournoi de hockey féminin aux Jeux olympiques, elle était là. La première médaille d'or olympique en 2002, elle y était aussi. Le premier programme universitaire francophone de hockey féminin et le premier centre de haute performance consacré à ce sport, c'est elle qui les a fondés. Quand il est question de l'avancement des femmes au hockey, Danielle Sauvageau est toujours là, quelque part. Portrait d'une bâtisseuse à quelques jours de son intronisation au Temple de la renommée. Avant le hockey, la police. Enfant, elle se rendait dans le boisé attenant à la polyvalente afin de pratiquer la raquette, le ski de fond et peut-être de faire un ou deux mauvais coups. Aujourd'hui, dans le même secteur, on retrouve une patinoire qui porte son nom ainsi que le poste de police local. Je trouve ça très symbolique, a souligné Sauvageau dans un long entretien avec la presse à quelques jours de son intronisation au Temple de la renommée du hockey. Le symbole est fort, oui, car si l'amour du hockey est arrivé en premier dans sa vie, Sauvageau a d'abord fait carrière dans la police. Sauvageau était dans la jeune vingtaine quand elle a postulé à la Gendarmerie royale du Canada. Comme elle parlait bien l'anglais et qu'elle faisait partie des premiers de classe, elle a été transférée à Powell River, en Colombie-Britannique. En 1988, elle a été appelée à travailler aux Jeux olympiques d'hiver de Calgary, à son grand bonheur. On se faisait dire « Vous pouvez aller n'importe où quand vous ne travaillez pas, pourvu que vous revêtiez l'uniforme. » Crois-moi que mon uniforme, je l'ai porté pendant 32 jours d'affilée. J'en ai vu des compétitions sportives. Sauvageau a passé près de 3 ans dans l'Ouest canadien, de 1986 à 1988, avant de revenir au Québec pour entrer dans le service de police de la communauté urbaine de Montréal, devenu aujourd'hui le service de police de la ville de Montréal. On m'a envoyé dans l'ouest de la ville en me disant « Tu parles anglais, donc tu t'en vas là. » Quand je suis rentrée, il y avait moins de 200 femmes dans la police. Donc, tu n'en voyais pas à tous les coins de rue. Quand on lui demande comment les hommes agissaient alors avec elle, Sauvageau est succincte. Différemment. Or, c'est là, dit-elle, qu'elle a appris qu'être différent, ça ne veut pas dire avoir tort. En 33 ans dans la police, Sauvageau en a vu de toutes les couleurs. Elle était là, lors de la tuerie de l'école polytechnique et de la fusillade du collège Dawson, entre autres. Encore aujourd'hui, toutefois, la femme de 63 ans préfère ne pas parler de ses expériences. Ma famille te le dirait, c'est très rare que je parle des situations que j'ai vécues. Pourquoi? Parce qu'il faut parler des victimes. Comme dans le monde du sport, il faut parler des athlètes. Cette dernière phrase résume probablement à elle seule ce que Danielle Sauvageau a fait toute sa vie. Au hockey, comme dans les forces de l'ordre, servir plus grand que soi. L'or pour la première fois. Avançons la cassette jusqu'en 2002, année qui fut sans doute l'une des plus importantes de la carrière de Danielle Sauvageau. La Québécoise baignait dans le monde du coaching depuis déjà plus d'une décennie. Elle avait notamment été entraîneuse adjointe avec l'équipe nationale de 1996-1997, puis était devenue, en 1999, la première femme entraîneuse adjointe d'une équipe de la LHJMQ. Comme adjointe, elle était aussi derrière le banc de l'équipe olympique à Nagano, lors de la première présentation d'un tournoi féminin en 1998. Tout ça l'a menée à être nommée, en 2000, entraîneuse chef de l'équipe nationale féminine en vue des championnats du monde de 2001. C'était évidemment une excellente entraîneuse. Se remémore Jana Hefford, légende de l'équipe canadienne intronisée au Temple de la renommée du hockey en 2018 et membre de l'équipe olympique de 2002. Elle arrivait avec une expérience dans la police, ce qui vient avec une personnalité un peu intimidante. La première fois que tu la rencontres, sa présence est forte, se souvient Jana Hefford. L'équipe canadienne a remporté l'or aux Mondiaux cette année-là, avant de vivre l'une des pires séquences de son histoire. Entre octobre 2001 et janvier 2002, tout juste avant les Jeux olympiques de Salt Lake City, les représentantes de l'Unifolié ont perdu 8 parties consécutives contre l'équipe américaine. Une catastrophe. « Nous n'obtenions pas les résultats que nous voulions », raconte Hefford. Il y avait beaucoup de critiques, de questionnements par rapport à l'entraîneuse, par rapport aux joueuses sélectionnées dans l'équipe. L'Ontarienne se souvient d'un tournant dans cette séquence. C'était à Détroit, après la 7e défaite consécutive, une dégelée de 7-3. Il y avait beaucoup d'émotions dans le vestiaire après le match. Je me souviens de Danielle qui entre, assez en colère. C'était clair que ça lui tenait tellement à cœur. Elle était frustrée, comme nous toutes, relate Hefford, sans toutefois entrer dans les détails. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à remonter la pente, à devenir meilleurs. L'équipe a perdu un 8e match par une marque plus serrée de 3-2. À quelques semaines du début des Jeux, le 14 janvier, Sauvageau a pris la décision de retrancher la Québécoise Nancy Drolet de sa formation. Elle l'a remplacée par Sherry Piper, une Torontoise de 20 ans. Quelques semaines plus tard, les Canadiennes ont mis fin à leur séquence de défaites contre les États-Unis en remportant la finale olympique. Elles ont ainsi décroché la première médaille d'or de leur histoire au terme d'une victoire de 3-2 qui, encore aujourd'hui, demeure un des grands moments de l'histoire du sport canadien. Je vois Danielle comme une personne qui prend les décisions difficiles quand elle doit le faire, dit Jana Hefford. Elle a assumé sa décision de retrancher Drolet. Elle a porté ce stress et a été récompensée, en fin de compte, parce qu'on a gagné la médaille d'or. Elle est bonne pour naviguer calmement à travers les défis. Ça a été une des clés, surtout lors du match pour la médaille d'or. Nous avions besoin de ça dans notre environnement. Ce triomphe a été déterminant pour le parcours de l'entraîneuse, mais aussi pour le hockey canadien. Dans une entrevue avec Sportcom en 2020, Marie-Philippe Poulin avait raconté avoir été inspirée et éclairée par cette victoire qu'elle avait regardée à la télévision. Ses parents lui avaient d'ailleurs offert une affiche de Danielle Sauvageau qu'elle a accrochée à un mur de sa chambre. Une avancée pour les francophones. Autre saut dans le temps, en 2008 cette fois. Danielle Sauvageau a été contactée par l'Université de Montréal pour mettre sur pied le premier programme de hockey féminin francophone au Québec. Pour ce faire, elle s'est entourée d'Isabelle Leclerc et de France Saint-Louis. Pendant 2 ans, les 3 femmes ont bâti le programme. Tout était à faire. Les plans de vestiaire, la construction, les uniformes, le recrutement. Tout ça, ça a été un feu roulant pendant assez longtemps, se souvient Isabelle Leclerc, que Sauvageau a par la suite nommée entraîneuse-chef du club. Jusqu'à ce que les carabins voient le jour, les joueuses québécoises, provenant des rangs collégiaux et désirant poursuivre leur parcours au hockey, avaient peu d'options. La majorité allait aux États-Unis, dans la NCAA. Celles qui n'y allaient pas ne voyaient pas comme option d'aller à McGill ou Concordia étudier en anglais, raconte Leclerc. L'arrivée des carabins a tout changé. On a gardé la majorité des meilleurs francophones. C'est ce qui a fait qu'on a eu du succès rapidement, se souvient Isabelle Leclerc. Au bout du fil, Leclerc se remémore une promesse faite par Sauvageau au moment de lancer le programme. En 5 ans, l'équipe serait parmi les meilleures au pays. Seulement 4 années ont finalement été nécessaires, alors que les Carabins ont remporté leur premier titre canadien en 2013. Sur la patinoire, je pleurais, je n'en revenais pas, raconte Leclerc. Daniel m'a regardé, a pris mon visage entre ses deux mains et m'a serré en disant « On l'a fait !» C'est mon plus beau souvenir sportif à vie, parce que c'était tellement impossible qu'on fasse ça. Les Carabins existent depuis plus de 15 ans maintenant. Sauvageau en a été la directrice générale pendant plusieurs années. Rares sont les équipes universitaires avec une directrice générale. Daniel a ouvert beaucoup de portes et fait en sorte qu'on soit soutenu de façon importante, évoque Leclerc. Tout ça, c'est elle. Moi, je n'aurais pas pu faire ça. Celle qui dirige toujours les Carabins nous parle longuement de Sauvageau, qu'elle qualifie de profondément humaine et généreuse, et à qui elle voue un immense respect. Quand tu regardes ce qui se passe en arrière, tu réalises que dans à peu près toutes les étapes pour l'avancement du hockey au Québec, au Canada et même à l'international, Daniel est toujours là, quelque part. Elle peut bien ne pas répondre au téléphone quand on l'appelle. Elle est partout. Vous écoutez Visionnaire dans l'âme, un dossier de Catherine Harvey-Pinard, paru le 6 novembre 2025 dans La Presse. En route vers la victoire. Toutes les femmes jointes par La Presse dans le cadre de ce dossier utilisent le même mot pour décrire Daniel Sauvageau, visionnaire. Le Centre de haute performance 2102, ouvert en 2019 à Verdun, illustre parfaitement cette qualité. Ça devait faire 10 ans qu'elle me parlait de ça, s'exclame Isabelle Leclerc, entraîneuse-chef des Carabins de l'Université de Montréal. Je n'étais pas capable de voir ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle voulait faire concrètement. Ça faisait longtemps qu'elle avait cette idée d'avoir un endroit où les filles de haut niveau pouvaient avoir un endroit où s'entraîner, confirme Stéphanie Poirier, ancienne entraîneuse adjointe des Carabins et actuelle directrice hockey féminin et développement à Hockey Québec. Sauvageau a demandé à Poirier de l'aider dans les débuts du centre 2102, dont le nom fait référence au 21 février 2002, date à laquelle l'équipe canadienne a remporté sa première médaille d'or olympique. Je me rappelle la première fois qu'elle me l'a fait visiter. Tout n'était pas fermé, il y avait encore du gypse partout. C'était comme « il va y avoir un bureau ici. On va ouvrir cette partie-là pour faire un vestiaire. Là, il va y avoir un vestiaire, un gym. » Il n'y avait rien. Mais Sauvageau avait une vision. Et le centre a ouvert ses portes dans l'auditorium de Verdun en septembre 2020, pendant la pandémie. Pendant longtemps, c'est la fondatrice et ses acolytes qui se chargeaient des tâches ménagères. Il y en a qui vont dire qu'ils ont trop un statut pour passer une mop. Daniel va dire « L'adage dit qu'il n'y a pas de petit métier », cite Stéphanie Poirier. Graduellement, le centre est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Vestiaires professionnels, casiers individuels, téléviseurs, réfrigérateurs, gym vitré, thérapeutes, tout y est pour créer un environnement professionnel. Le centre 2102 a permis, et permet encore aujourd'hui, aux athlètes féminines d'avoir la priorité, ce qui n'arrive presque pas ailleurs, dit Poirier. Il y avait des filles de l'Ontario, de l'Ouest canadien, qui venaient dans la ville pour s'entraîner. Quand Daniel part un projet, c'est pour combler un manque, un besoin, qui est encore très criant malgré les avancées. C'est un peu la directrice du hockey féminin au Québec. Madame la DG. En 2023, la Ligue professionnelle de hockey féminin, LPHF, a vu le jour. Après une attente de plusieurs années, les meilleures joueuses du monde avaient enfin leur circuit, qui comprenait alors 6 équipes originales, dont une à Montréal, qui sera baptisée la Victoire. Où l'équipe s'est-elle installée? C'est exact, à l'Auditorium de Verdun, au centre 2102. Quand la Ligue est arrivée, on était une des seules places qui était vraiment prête à recevoir une équipe professionnelle, souligne Stéphanie Poirier, et qui fut une des premières embauches de la LPHF au poste de directrice générale de la formation montréalaise, Danielle Sauvageau, oui. Quand on y repense, on se dit « ça semblait évident en raison de tout ce qu'elle a fait pour le sport ». Mais elle a quand même dû traverser tout un processus et compétitionner avec d'autres candidats pour être sélectionnée. Nous voulions nous assurer d'embaucher les meilleures personnes. Et en définitive, Danielle l'était, relate Jana Hefford, aujourd'hui vice-présidente exécutive des opérations hockey de la LPHF. La Victoire a conclu sa première saison au deuxième rang du circuit et la suivante au tout premier rang. Le succès ne s'est pas poursuivi en séries éliminatoires, cependant. L'été dernier, avec l'ajout d'une 7e et d'une 8e équipe, la Victoire a perdu de nombreuses joueuses au repêchage d'expansion. Sauvageau a reconstruit son club qui, sur le papier, ne laisse pas sa place. En dehors de la patinoire, la Victoire connaît aussi du succès. Le club a changé le lieu de ses matchs à domicile, passant de l'Auditorium de Verdun à la Place Belle, afin de pouvoir accueillir plus de partisans. Il a aussi joué 2 matchs au Centre Belle. De toute évidence, elles veulent gagner la Coupe Walter, mais le travail qui a été fait dans les 2 dernières années pour bâtir l'image de marque, la présence et tout ça, je pense que c'est réussi, conclut Jana Hefford. Je n'ai pas fini. Danielle Sauvageau s'en souvient comme si c'était hier. Du haut de ses 13 ans, elle se rendait à l'aréna avec ses 2 frères. Une fois sur place, on lui a interdit de jouer. Parce qu'elle était une fille. À bien y repenser aujourd'hui, c'est peut-être ce premier « non » qui a fait d'elle la bâtisseuse qu'elle est devenue. On m'a dit « toi, tu ne peux pas jouer ». Je n'oublierai jamais les yeux de cette personne-là, raconte Danielle Sauvageau à la presse. Le « non », je me le suis fait dire souvent, poursuit-elle. C'est devenu une nouvelle occasion. Chaque fois qu'on me dit non, je me dis, il y a une façon d'entrer. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça va prendre du temps. Cette façon de penser est probablement à l'origine de l'immense impact qu'a eu la femme de 63 ans sur l'évolution du hockey féminin au Québec, au Canada et à l'international au cours des trois dernières décennies. Cette façon de penser a probablement fait d'elle celle qui, lundi prochain, deviendra la première femme intronisée à titre de bâtisseuse au temple de la renommée du hockey. À l'approche de cette journée qui soulignera l'ensemble de son œuvre, la directrice générale de la Victoire de Montréal est capable de reconnaître son apport dans ce qu'est devenu le hockey féminin, parce que c'est factuel, dit-elle. Sauf qu'à la base, ce n'est pas dans cet objectif qu'elle a fait tout ce qu'elle a fait. Moi, je me vois comme quelqu'un qui a servi la game, qui a voulu travailler sur des projets, résume-t-elle. C'est simple. Le patron de Daniel Sauvageau, c'était le sport. Mon désir de servir a visiblement eu beaucoup d'impact, parce que j'allais où il n'y avait rien. Je disais, on va trouver une façon. La place du hockey féminin. Si j'avais dit, OK, d'abord, on n'a pas de place, on ne sera pas là aujourd'hui. Pour les femmes. Au fil de sa carrière, Daniel Sauvageau a toujours tenté d'offrir des occasions à des entraîneuses et à des gestionnaires féminines. Si je ne le fais pas, qui le fera? Disait-elle d'ailleurs dans une entrevue avec le collègue Guillaume Lefrançois en 2021. Autrement dit, ce qu'elle n'a pas eu, Daniel Sauvageau a fait en sorte de l'offrir à d'autres. Ma mère n'a pas eu de maman et elle est devenue une magnifique maman, raconte-t-elle. Peu importe ce que je n'ai pas eu, on dirait que j'ai le biais de dire « Je vais l'offrir à quelqu'un d'autre. » C'est une grande fierté. C'est ça, Sauvageau. Servir plus grand que soi, servir le jeu, servir les femmes. Quand j'ai appris qu'Émilie Castonguay était devenue directrice générale adjointe, j'ai eu les larmes aux yeux, évoque-t-elle. Quand j'ai appris que Jess Campbell était la première entraîneuse dans la LNH, j'ai fait le match du Canadien à RDS ce soir-là. Je la regardais et j'avais le goût de me mettre à pleurer. Ça continue. À 63 ans, Daniel Sauvageau ne voit pas encore le bout de son implication dans le hockey féminin et le hockey en général. Tant que sa santé mentale et physique le lui permettra et tant qu'elle sentira qu'elle peut encore apporter sa contribution, elle sera là. « Je n'ai pas fini », affirme Daniel Sauvageau. « Ma plus grande fierté, c'est d'être encore là. Et, surtout, d'avoir encore le goût d'être là. Parce qu'il y a encore beaucoup à faire. » Spontanément, elle fait dévier le sujet vers les installations municipales. « On se réjouit d'avoir plus de jeunes filles qui jouent au hockey. » Mais il n'y a pas plus d'aréna, déplore-t-elle. Peut-on conscientiser nos politiciens à être plus pragmatiques et pratiques? Il faut qu'ils arrêtent de parler, de dire que ça nous en prend, et qu'ils le fassent. La jeunesse, quand on ne l'occupe pas, je te confirme qu'elle va s'occuper, et pas nécessairement de la bonne façon. Est-ce qu'on peut construire des patinoires avec un toit et un vestiaire pour que les gens puissent aller patiner, que la jeunesse aille dans l'aréna s'amuser? En bref, la bâtisseuse n'a pas fini de bâtir. C'était « Visionnaire dans l'âme », un dossier de Catherine Harvey-Pinard paru le 6 novembre 2025 dans La Presse.
Marjorie Onos, chercheure et conférencière. Un texte paru dans l'édition Hiver 2025, numéro 165, de la revue Paraquad. C'est après 15 ans de carrière en tant que chercheure dans le domaine de la parentalité en situation de handicap que Marjorie Onos a eu un accident de la route qui l'a en partie paralysée. Et c'est parce qu'elle s'est retrouvée elle-même en situation de handicap qu'elle a pu joindre son expérience à ses recherches pour leur donner le poids du vécu. Au fil des années et des aléas de la vie, elle a tourné son expérience vers les conférences en racontant des anecdotes de ce qu'elle vivait qui ont amené à des leçons de vie. En partageant son vécu, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait en faire bénéficier d'autres et s'engager pour sa communauté. Quand elle a voulu créer son entreprise initialement prévue pour être du coaching, Marjorie Onos, psychologue et chercheur, n'avait aucune idée qu'elle pouvait bénéficier de programmes gouvernementaux qui l'aideraient à se lancer. C'est en entrant en contact avec le service employabilité de Mémo Québec que l'entrepreneur a reçu les conseils de Samira Fezzani, coordonnatrice du service. Citation : Elle m'a beaucoup aidée, car elle connaissait bien tous les programmes. Elle m'a permis de limiter ma charge de travail liée à la recherche d'informations et à leur compréhension par moi-même. J'ai été cadrée et orientée. Quand j'ai besoin de quelque chose, je sais que je peux compter sur elle, encore maintenant. Fin de citation, raconte Marjorie Onos. La psychologue et chercheure de formation avait pour idée initiale de créer une entreprise de coaching. Étant énormément sollicitée pour donner des conférences, notamment en tant que représentante de la Fondation Rick Hansen, elle a fini par orienter son domaine d'activité dans ce sens. Citation : Mon passage par le service employabilité m'a aidé à démarrer la machine. Je pense que le service est important car il permet aux personnes en situation de handicap qui recherchent un emploi de redonner un sens à leur vie professionnelle. Fin de citation, explique la psychologue. C'était Marjorie Onos, chercheure et conférencière. Un texte paru dans l'édition Hiver 2025, numéro 165, de la revue Paraquad.